Vous savez, nous avons commencé la semaine dernière une méditation sur l'évangile et les discriminations. Alors, bien sûr, cela à cause de tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit concernant les discriminations raciales ou ethniques. Et nous avons considéré le thème de l'évangile et les discriminations. Nous avions considéré que la race humaine est créée par Dieu. La race humaine est une, qui est créée par Dieu, elle est une. Et puis nous avons considéré le fait que tous les hommes sont au point de vue de Dieu sur un même pied d'égalité parce que tous, on avait considéré cela, ont péché. Donc les hommes, les êtres humains ne sont pas caractérisés par leurs différences extérieures, mais par leur état spirituel qui est le même. C'est-à-dire sous la coupole, sous l'emprise du péché. Et puis, on avait vu aussi que tous les hommes ont besoin d'être réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Alors, bien sûr, nous constatons que malgré tout cela, il y a des problèmes de discrimination qui sont basés sur les différences extérieures et qui demeurent ancrées vraiment dans notre comportement. Et donc les préjugés nourrissent nos attitudes à l'égard les uns à l'égard des autres. Alors aujourd'hui nous voulons considérer un passage de l'Écriture, donc dans l'épître de Jacques, pour voir de quelle manière nous devons considérer les autres. Nous allons donc le faire en regardant le texte dans Jacques chapitre 2 et à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, donc je vais lire ces versets, Jacques chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 1, pardon, jusqu'au verset 13. Jacques 2, verset 1. Donc nous écoutons ici la parole de Dieu. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre: Tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'êtes-vous pas des riches, n'est-ce pas, pardon, les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point d'adultère, a aussi dit: Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le favoritisme ici? Alors, nous, on parle de discrimination. Le favoritisme, c'est peut-être un aspect particulier de la discrimination. Dans le dictionnaire, le Larousse, il est dit que le favoritisme est une tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales à quelqu'un. Il y a un peu dans cette définition une notion à la fois de justice et de loi. Mais pour cerner vraiment la pensée de Jacques ici, ou ce qu'il veut dire. Il commence par donner une illustration. Il dit d'abord une exhortation, premier verset que nous avons lu. Il dit « Mes frères, que votre foi à notre Seigneur, glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de favoritisme. » Certainement qu'il y avait du favoritisme, de la discrimination dans l'Église. Donc Jacques encourage les frères à ne pas user de favoritisme les uns envers les autres, de ne pas avoir de discrimination les uns envers les autres. Donc il donne une illustration et il parle de deux catégories de personnes riches, des personnes riches qui entrent dans le temple et des personnes pauvres. Et il fait remarquer aux chrétiens qu'ils peuvent avoir un regard qui se tourne vers ceux qui ont un habit magnifique. Et le sens ici du favoritisme, c'est le fait de faire des exceptions de personnes, de relever, il est dit de relever ou de recevoir le visage de quelqu'un, d'être attentif à l'apparence de la personne pour porter un jugement et pour décider aussi une attitude à l'égard de cette personne. Donc le favoritisme, ici, c'est porter les regards sur l'apparence extérieure et décider d'accorder des faveurs au vu, ou de ne pas en accorder, au vu de cette seule apparence. Donc il ne s'agit ni plus ni moins que de faire des discriminations, ici, sur la base des différences qui apparaissent dans l'extérieur. Donc c'est une illustration que Jacques donne, peut-être le problème existe-t-il réellement dans l'Église, mais en tout cas c'est une illustration pour faire comprendre l'exhortation à la non-discrimination les uns envers les autres. Et je crois qu'on peut dire qu'on peut élargir avec cette illustration la question de la discrimination, non pas seulement la discrimination sociale entre riches et pauvres, mais aussi la discrimination que l'on peut faire sur les ethnies, sur la couleur de la peau, et puis sur le sexe ou sur encore d'autres choses. Donc nous avons toujours, n'est-ce pas, cette tendance à dresser des barrières. Je crois que c'est ancré vraiment en nous, qui nous sépare les uns des autres, surtout de ceux qui sont différents de nous. Et sur la base de leurs différences, nous avons peut-être souvent catalogué les gens, nous avons jugé que ceux-là sont meilleurs que ceux-ci. Nous avons surtout parfois jugé que nous sommes meilleurs que les autres, que nous avons une meilleure culture, une meilleure façon de faire, une meilleure couleur de peau, j'en sais rien, enfin, ou des choses de cet ordre-là. Alors, que dit Jacques ici concernant cette attitude de discrimination? Quelle doit être l'attitude du chrétien face aux discriminations, ou vis-à-vis des autres? Que dit l'Évangile ici à ce sujet? Eh bien, nous voyons ici, premièrement, que la foi de l'Évangile est incompatible avec toute discrimination. La foi de l'Évangile est incompatible avec toute discrimination. « Mes frères, dit Jacques, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne, de toute discrimination, de tout ce qui se base sur l'apparence extérieure pour tirer un jugement. » Donc l'expression de foi réelle en Christ est exempte de toute discrimination. Celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, dans le glorieux Sauveur, qui professe cette foi, doit avoir toute sa vie régie par cette foi. Ses pensées, ses paroles, ses actions, ses relations avec les autres, frères et sœurs, et avec ceux qui sont aussi au dehors, eh bien, doit être régie par cette foi qu'il a en Jésus-Christ. La foi en Christ façonne toutes les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Et donc, en disant cela, Jacques indique qu'il y a une incompatibilité entre l'Évangile et le favoritisme, entre l'Évangile et la discrimination, entre l'Évangile et le racisme. L'apôtre Paul souligne la même vérité quand il dit aux Romains, par exemple, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et au verset 12, il dit « Il n'y a aucune différence entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qui l'invoque. » Donc, pas de différence entre eux, ils ont le même Seigneur. Et en Galates 3, verset 26-28, l'apôtre Paul dit « Car vous êtes tous fils de Dieu. » Il parle des croyants, des chrétiens, il dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus, revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, ici, il parle du fait qu'ils ont été baptisés en Jésus-Christ, qu'ils sont des croyants, donc qu'ils vivent dans la foi au Christ, et il dit, si tel est le cas, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction qui se base sur la différence de sexe, on parle homme-femme, sur la différence de culture ou d'ethnie ou quoi que ce soit. Vous êtes tous maintenant un en Jésus-Christ. Donc le message de l'Évangile s'adresse à tous les hommes, sans distinction de rang, de couleur ou d'ethnie. Et la mission même que Jésus avait laissée à ses disciples, et puis donc à l'Église, eh bien, c'était celle-ci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations. » Il n'a pas dit « Faites d'une certaine catégorie de personnes, mais de toutes les nations, toute la planète entière. Faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, quand nous usons de discrimination basée sur une apparence extérieure, sur une différence extérieure, eh bien, nous violons la pensée même de ce texte qui est ici, nous violons la pensée de Dieu si nous permettons à nos préjugés de présider aux relations ou aux pensées que nous avons les uns à l'égard des autres. Donc la foi de l'Évangile est incompatible avec toute discrimination. Deuxièmement, la discrimination traduit la mauvaise inspiration du cœur. Jacques dit, ne faites-vous pas, au verset 4, en vous-même une distinction lorsque vous dites aux riches, mets-toi là à cette place d'honneur, et puis aux pauvres, assieds-toi ici. Il dit, ne faites-vous pas une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de paroles mauvaises. Il dit, vous agissez et vous jugez, mais vous êtes inspiré avec de mauvaises pensées. Vous vous basez sur de mauvais raisonnements. Ce sont des raisonnements qui sont faux. Le fondement sur lequel repose votre jugement est faux. Il repose sur des critères qui ne peuvent en aucun cas être des critères. La couleur de la peau n'est pas un critère. La différence de rang social n'est pas un critère. La différence de métier n'est pas un critère. Il dit, vous vous basez sur des choses qui ne doivent pas être considérées lorsque l'on regarde les autres. Donc, il dit que la discrimination traduit une mauvaise inspiration du cœur. Puis, troisièmement, on pourrait dire aussi que toute discrimination est contraire au caractère de Dieu. Jacques dit, alors c'est au verset 5, il dit, « Écoutez mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime, et vous avilissez le pauvre. » Et donc je crois que ce verset souligne en premier lieu que Dieu ne fait exception de personne. Il dit que Dieu a aussi choisi, quand on lit les Écritures, bien il y avait des personnes que Dieu avait choisies qui étaient riches, et puis d'autres qui étaient pauvres. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne choisit pas des riches pour laisser des pauvres, ou il ne choisit pas des pauvres pour laisser les riches. Dieu a un peuple nombreux. L'Épître aux Corinthiens dit, considérez qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles, etc. Mais il y en avait quand même quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup, c'est tout ce qu'il dit. Donc, il y avait un mélange dans l'Église de Christ. Et donc, ici, Jacques souligne, quand il dit « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres ?» il souligne que Dieu ne fait pas de distinction. Vous faites des distinctions. Le monde fait une distinction. D'accord ? Le monde les considère d'une manière, mais Dieu ne fait pas cette distinction. En réalité, Dieu ne fait pas les distinctions entre le riche et le pauvre. Et dans le livre de Job, on le lit très clairement. Il est dit ceci, il dit, il ne distingue pas, Job 34, 19, il ne distingue pas le riche du pauvre, car tous sont l'ouvrage de ses mains. Dieu ne fait pas de distinction de rang social. Et l'Écriture montre que le caractère de Dieu est de ne pas faire de discrimination, d'acception de personnes, de favoritisme basé sur l'apparence extérieure. Deutéronome chapitre 10, nous lisons ceci, entre les versets 10 et 19, donc je vous lis quelques extraits. Il dit ici, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. » C'est Moïse qui parle au peuple ici. Il dit, « Le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et le vêtement. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et on sait dans nos pays d'Europe, ici, combien on fait porter aux étrangers parfois la responsabilité des problèmes que nous pouvons avoir. Et ici, la Bible nous affirme que Dieu aime l'étranger. Et il y a beaucoup de, si vous lisez l'Ancien Testament, beaucoup de choses que Dieu dit au bénéfice de l'étranger, d'attitude qu'on doit avoir envers l'étranger. Et ici, il dit à son peuple, vous aimerez l'étranger, parce que vous aussi, vous avez été étranger en Égypte. Donc Dieu veut que ses enfants manifestent son caractère. Autrement dit, celui qui fait exception de personne ou qui établit de la discrimination, eh bien, il agit de manière contraire au caractère de Dieu. Toute discrimination est contraire au caractère de Dieu. Acte chapitre 10, versets 34 à 35, vous vous rappelez lorsque Dieu envoie Pierre vers Corneille qui, pour lui annoncer l'évangile, Corneille qui est un centenier romain, donc un non-juif, pour lui annoncer l'évangile, eh bien, il a fallu qu'il prépare l'apôtre Pierre, parce que dans son esprit, il y avait beaucoup de préjugés concernant les païens. Et donc Dieu lui fait passer par une vision dans laquelle il lui fait manger des choses que Pierre considère impures. Et il dit non, puis Dieu insiste. Et puis Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et donc Pierre part chez Corneille. Il arrive et il dit à Corneille qu'il n'est pas a permis à un juif même d'entrer dans la maison d'un païen. Mais il ajoute, mais Dieu m'a appris à ne pas considérer impur ce qu'il a déclaré pur. Et puis, plus tard, il dira ceci, il dit, quand il commence à leur annoncer l'évangile, le texte dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et ça, c'est quelque chose qu'il comprend là sur le fait. Bien sûr, il l'avait lu dans le Deutéronome, il l'avait lu dans l'Ancien Testament, mais ça prenait une tournure tout à fait particulière. C'était un renversement complet dans sa pensée et dans les préjugés qu'il pouvait avoir. Quand il voit comment l'évangile pénètre auprès des païens, il dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Et Dieu a dû œuvrer dans le cœur de Pierre pour lui faire prendre conscience de cette réalité. Donc, la discrimination est contraire au caractère de Dieu, parce que Dieu ne fait point exception de personne. Les gens reconnaissaient ce caractère chez Jésus aussi. Rappelez-vous, lorsque des gens viennent le voir et puis lui posent cette question, ils lui disent « Maître, en Luc 20, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Et on se souvient, bien sûr, que Jésus, dans sa vie, il s'est affranchi, on pourrait dire plutôt, des barrières qui existaient en son temps. Il a parlé avec une femme samaritaine, il est allé en Samarie. Les Juifs faisaient un détour pour ne pas traverser la Samarie. Mais lui, il y est allé. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il n'a pas repoussé. Donc, il a mangé en compagnie de personnes de mauvaise vie. Donc, il s'est affranchi de ces barrières-là parce qu'il ne faisait pas de distinction entre les personnes. Donc, la discrimination est contraire au caractère même de Dieu. C'est ce que Jacques dit quand il dit, si Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde. Et puis, quatrièmement, je voudrais dire ici que le favoritisme viole la loi de Dieu. Toute discrimination viole la loi de Dieu. Regardez au verset 8, il est dit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, si vous faites la discrimination, si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Et donc, il dit que la discrimination est un péché. Et c'est clair dans ce verset, hein, vous commettez, verset 9, un péché si vous faites exception de personne. Vous êtes condamné par la loi comme transgresseur de la loi. Et donc, nous ne devons pas considérer que la discrimination que nous pouvons avoir dans notre cœur est comme une question d'affinité, simplement. Mais nous devons la considérer telle que l'Écriture le considère, comme un péché. C'est une transgression de la loi de Dieu. La loi est violée, elle est transgressée lorsque nous commettons de la discrimination. Et cette loi en question, c'est la loi de l'amour du prochain. Jacques l'appelle la loi royale. Et que dit cette loi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une loi présente depuis le Lévitique, hein, ici. Donc celui qui use de favoritisme, qui use de discrimination, que ce soit entre riches et pauvres, que ce soit sur la différence de couleur de peau, est aussi condamnable, aussi transgresseur de la loi que celui qui commet l'adultère. C'est ce que qu'on lit plus bas dans ce que Jacques dit. Il dit « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Ici. Donc ici, il y a une unité dans la loi. Il dit, hein, ici, Jacques met en évidence que l'unité de la loi, ici, il met en évidence cette unité de la loi, et la réalité suivante, c'est que celui qui pêche contre le plus petit commandement pêche contre tous, ici. Et donc, il constitue ici qu'il y a un tout indissociable dans la loi de Dieu. On ne peut pas choisir d'obéir à telle loi et puis pas à telle autre. Et donc, quand on agit en faisant du favoritisme ou en discriminant, en jugeant selon la couleur de la peau, eh bien, il est évident ici que on transgresse la loi de l'amour et donc on transgresse tous les commandements de Dieu. Le favoritisme ou la discrimination viole la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est une. Et elle est une en raison de l'unicité du législateur. Regardez ce que Jacques dit. Il dit, celui qui a dit, tu ne commettras point l'adultère, a aussi dit, tu ne tueras point. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, je choisis d'obéir à ce commandement-là, parce que bon, là, c'est le commandement de Dieu, et puis pas à celui-ci, parce que Dieu, celui qui a dit, tu ne tueras point, c'est le même qui a dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est le même législateur. Et donc, quelque part, il y a une même autorité qui repose sur tous les commandements de Dieu, et c'est l'autorité de Dieu lui-même. La violation d'un commandement, quel qu'il soit, est une violation, est une transgression de l'autorité de Dieu, un rejet de l'autorité de Dieu, et cela, quel que soit le commandement. Donc, celui qui fait tous ses efforts pour être bien, pour observer les commandements de Dieu du mieux qu'il peut, mais qui a dans son cœur des préjugés contre qui que ce soit à cause de ce que la personne est, de sa couleur, de son travail, de son rang social ou de toute autre chose, eh bien, il rejette l'autorité de Dieu sur le commandement d'amour qui lui est indiqué. Le péché donc ne doit pas être regardé sous son rapport avec sa taille. Est-ce que c'est un grand péché, un petit péché? Bien sûr, voler une pomme, c'est pas pareil que de voler une banque. Les conséquences ne seront pas les mêmes. On a quand même péché, mais les conséquences ne seront pas les mêmes. Jacques ne dit pas que tous les péchés ont la même conséquence, mais il dit que tous les commandements de Dieu, eh bien, sont sous la même autorité, celle de Dieu, et qu'ils doivent être observés tous les uns comme les autres. Et faillir à un, c'est faillir à tous. Alors, je termine en disant ceci, chers frères et sœurs. Que prendre l'Évangile face à la discrimination? Premièrement, d'après ce passage, je pense qu'on peut considérer qu'il prend la repentance envers Dieu. Jacques dit que le favoritisme, la discrimination que l'on peut avoir dans son cœur contre quelqu'un, envers quelqu'un, est un péché. Et face au péché, la seule solution est la repentance envers Dieu. Le péché est la violation, la transgression de la loi de Dieu. Et donc, ce passage est un appel à la repentance. La discrimination sous toutes ses formes, c'est la manifestation même du péché. Et donc, ce que nous avons à faire, c'est vraiment à considérer ces choses et à venir à Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ce n'est pas dans les mouvements que nous allons pouvoir régler les problèmes de racisme ou les problèmes de discrimination de quelque nature qu'ils soient. C'est en venant d'abord à Jésus-Christ. Celui, on l'avait dit la dernière fois, il faut être d'abord réconcilié avec Christ pour pouvoir être réconcilié les uns avec les autres. Donc ici, on a un appel à la repentance, un appel à placer sa confiance dans la solution que Dieu a pourvue et a prévue. C'est la personne de Jésus-Christ. Placer notre confiance, notre foi en Jésus-Christ. Par cela seul, nous pouvons être en règle avec Dieu et connaître une véritable nouvelle naissance, avoir une véritable vie nouvelle, avoir l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui nous permet d'aimer Dieu et de nous aimer aussi les uns les autres. Deuxièmement, je voudrais souligner que ce passage nous enseigne à surveiller nos paroles et nos actes. Surveiller nos paroles et nos actes. Regardez le verset 12. « Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Donc nous sommes donc exhortés ici à la surveillance de nos propos et de nos actes. Abandonner nos manières de penser, les étiquettes que nous avons parfois sur les autres. Parfois on a l'habitude de dire que telle personne venant de tel type de pays est comme ceci, hein. Les Africains sont comme ceci, les Européens sont comme cela, les Belges sont comme ceci, les Américains comme cela, les Antillais comme d'autres. Et donc, on a pris l'habitude de cataloguer, de dire des choses qui sont véhiculées peut-être parfois de génération en génération et qui, quelque part, nous prédisposent à penser d'une manière orientée les uns des autres. Eh bien, le passage nous dit ici, parlez et agissez en nous souvenant que, eh bien, nous allons être jugé aussi par la loi de Dieu et que le jugement sera sans miséricorde pour qui n'aura pas usé de miséricorde aussi envers les autres. Donc laissez nos paroles et nos actes être guidés par la perspective aussi du fait que nous aurons à rendre un jour compte pour tout ce que nous aurons dit et fait, et notamment dans le domaine où on aura pu s'exprimer avec discrimination ou agir avec discrimination à l'égard des autres. Et puis aussi, le troisièmement et le dernièrement, ce passage nous exhorte à l'engagement d'amour envers les autres. La solution à laquelle l'Évangile nous appelle face aux discriminations, ça n'est pas simplement la manifestation dans la rue ou autre, mais surtout l'engagement dans une véritable relation d'amour à l'autre. Regardez ce que Jacques dit, il dit « Si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites de la discrimination, vous péchez. » Autrement dit, l'antidote, hein, on pourrait dire la discrimination, c'est l'engagement dans une relation d'amour avec les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'Évangile nous exhorte à aimer même nos ennemis, à leur faire du bien, à prier pour eux. Et donc l'attitude à avoir, ce n'est pas la manifestation contre simplement, mais c'est l'engagement pour et envers les autres. Et c'est exactement ce que Jésus faisait. On n'a pas vu Jésus en train de crier contre, simplement contre quelque chose, mais il s'est aussi engagé en allant au-devant des plus démunis, de ceux qui étaient délaissés, de ceux qui étaient rejetés, pour leur témoigner de son amour. C'est ainsi que nous devons faire envers tout ce qu'on appelle les minorités, hein, tout ce que les autres rejettent. Nous devons, avec l'Évangile, avec l'amour que Dieu met dans nos cœurs, aller au-devant et témoigner véritablement de cet amour. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. N'agissons pas comme tout le monde agit, ne nous laissons pas guider comme tout le monde est guidé, ne nous laissons pas pilotés par ce qui fait partie de notre communauté, mais que ce soit l'Évangile vraiment qui façonne nos pensées et qui nous pousse à agir et à manifester le caractère qu'il y a aussi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons reçu son Esprit pour cela. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Nous te demandons que tu nous aides à agir d'une manière conforme à ta parole, Seigneur. Nous, à ne point faire comme nous voyons faire autour de nous, mais à chercher quelle est l'exhortation que nous pouvons avoir de ta parole, la conduite que nous devons tenir dans nos relations les uns avec les autres. Aide-nous à accomplir, comme l'apôtre Jacques le dit, la loi royale, c'est-à-dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, afin de ne pas agir avec discrimination les uns envers les autres. Et nous voulons nous approcher de toi en te demandant pardon, parce que nous reconnaissons que bien souvent, nous avons agi selon des stéréotypes, Seigneur, selon nos pensées, selon des préjugés, et nous te prions pour que tu nous donnes de pouvoir parler et agir comme devant être jugé par la loi de la liberté. Donc parler et agir avec amour et avec miséricorde les uns envers les autres pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.